Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Avant de bénir l'assemblée tout entière, je vais prononcer une prière de bénédiction pour toutes ces personnes qui veulent s'engager à la suite de ce que demande le pape, parce que ce que je demande pour ce diocèse et ce que nous souhaitons pour la province aussi de Toulouse, de s'engager dans cette direction d'une écologie humaine intégrale. Seigneur Jésus, toi qui mets en nos cœurs la volonté de
Les paroisses françaises s'y mettent, titraient cet été nos confrères du Pèlerin dans un dossier consacré à la conversion écologique En Marche. 5 ans après l'encyclique Laudato Si et devant l'ampleur du défi de la transition écologique, des chrétiens toujours plus nombreux se mobilisent et agissent. Ici et là, des initiatives personnelles et communautaires fleurissent. Le 5 septembre dernier, dans le diocèse de Toulouse, une fête de la création, instituée par le pape François en 2015, rassemblait dans les espaces verts de la maison diocésaine du Crestroy des chrétiens venus de toute la province. Tout comme Aymeric et Christine Fissé, qui témoignaient ce jour-là d'un projet encore en gestation, en germination, pourrait-on dire.
Alors nous connaissons Alexis Ferté qui a organisé cette journée et qui nous a proposé de venir pour parler de notre changement de mode de vie puisque nous habitions le 9-3, donc la Seine-Saint-Denis, dans la cité de Bondy. Et depuis plus d'un an maintenant, nous sommes en Aveyron, installés en Aveyron pour développer un projet de centre de formation sur les questions environnementales et sociétales au cœur même de l'abbaye de Bonnecombe, une ancienne abbaye cistercienne. Et évidemment, ce changement de département occasionne un changement de vie important qui est en cours. Nous n'avons pas encore réalisé tout ce que nous voulions. Mais effectivement, nous sommes maintenant immergés dans un milieu rural. Nous avons la nature autour de nous, ce que nous n'avions pas en Seine-Saint-Denis. Et ça implique évidemment un certain nombre de changements de vie que nous mettons en œuvre actuellement. Une forme de plus grande sobriété, moins aussi de déplacements nationaux, internationaux. Et puis, toute une réflexion de façon à pouvoir mettre en place ce centre, pouvoir aussi développer sur le site de l'abbaye de Bonnecombe, qui est important, la biodiversité, les plantes aromatiques médicinales, etc.
C'est l'histoire d'un cheminement, ce changement de vie où tout d'un coup il y a eu un déclic et vous vous êtes dit c'est pas possible, il faut absolument changer, faire autrement.
Aymeric a voyagé dans la nature sauvage pendant une vingtaine d'années, donc a été très sensibilisé à la préservation de la planète. Moi j'ai plutôt un parcours service public, lutte contre l'exclusion pour faire simple. Et quand on s'est marié, on a eu envie de créer un centre de formation qui réunisse ces deux aspirations.
On est des jeunes mariés
depuis 2014, c'est assez récent. Et donc on va dire que le cheminement est encore en cours. On n'est pas du tout arrivé à la conversion écologique, elle est infinie en fait. Et même du point de vue de notre quotidien, il y a des tas de choses qui ne vont pas. On utilise encore beaucoup trop la voiture, ça nous arrive de prendre l'avion, on va encore au supermarché, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Mais on est indulgents avec nous-mêmes et on compte aussi sur ce projet pour nous aider à nous convertir écologiquement.
L'idée, c'est aussi de mieux comprendre les enjeux actuels, et notamment l'interaction des phénomènes, l'interaction entre la société dans laquelle on vit, ce qu'elle occasionne sur l'environnement, et ce que l'environnement qu'on a parfois dégradé va occasionner sur la société dans laquelle on vit. Donc il y a aussi un aspect intellectuel qui est de mieux comprendre toutes ces questions, et qui est destiné à nous faire évoluer aussi.
On parle aujourd'hui de conversion. Votre foi chrétienne vous a fortement incité à cette conversion.
Aymeric est plutôt agnostique. Moi, je suis catholique. Je suis franciscaine, du tiers-ordre franciscain. Et c'est vrai que ma foi et ma spiritualité franciscaine m'ont toujours, depuis très longtemps, poussée vers une vie plus fraternelle et plus simple. Parce que tout se tient. C'est quand on vit simplement qu'on se rapproche des gens aussi plus démunis que soi. Et je pense que sans ce ressort de la foi chrétienne et de cette inspiration de saint François d'Assise, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Aymeric m'a beaucoup tiré vers l'écologie aussi, mais si je n'avais pas eu ce ressort personnel de la foi, je pense que je ne serais pas allée dans cette voie aussi franche.
Très admiratif de la foi de sa femme, c'est lui qui nous le dit, Aymeric nous précise cependant que ce projet est aconfessionnel et fédérateur et qu'il rassemble des écologistes qui ont une sensibilité environnementale très forte, mais qui l'ont parfois moins pour celles qui concernent les questions de bioéthique, et par ailleurs des chrétiens qui ont davantage une fibre bioéthique et sociétale plutôt qu'environnementale. Et pourtant, c'est bien dans une abbaye cistercienne qu'ils ont le projet de s'installer.
Enfin, pour l'instant, on est installé, mais rien n'est fait. Hein. Le projet est en cours. On prépare un bail avec le diocèse. Donc là, on en est juste à l'étude de faisabilité préalable. C'est très important de le rappeler. On espère dans un an pouvoir vous dire que c'est bon, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et c'est vrai que le choix s'est porté sur cette abbaye aussi parce qu'elle comporte 800 ans de vie monastique avec un élan vers la création, vers la fraternité, vers la vie simple, vers le travail de ses mains. Et on aime beaucoup s'inscrire dans cette histoire. Et donc ça n'est pas neutre effectivement de s'être installé là. Même si le projet est laïque à confessionnel, on s'inscrit dans une histoire cistercienne dont on veut un peu perpétuer aussi l'esprit à notre façon.
Tout est à construire, à inventer. Dès 2023, Christine et Aymeric espèrent accueillir 35 étudiants, puis des salariés d'entreprise et des auditeurs libres. Et tout cela dans ce maillage territorial.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout comme une bulle déconnectée du territoire. On se veut vraiment en connexion avec les écoles, avec les institutionnels, avec les entreprises avéronaises, avec les agriculteurs, les éleveurs, les bergers. Avoir vraiment à cœur de faire connaître l'Aveyron. Et dans nos cours, il y aura toujours un intervenant peut-être national et un intervenant toujours local pour avoir ce double regard. Et on essaiera à chaque fois, sur chaque thème, d'aller sur le terrain voir une illustration de ce thème. Exemple, énergie renouvelable en cours intellectuellement. Et ensuite, on va voir les éoliennes du Lévézou pour se faire sa propre opinion sur cette énergie renouvelable. Ne pas être en vase clos, dans une sorte de bulle de jeunes citadins qui viendraient se mettre au vert et repartiraient chez eux sans avoir une once de connaissance du territoire où ils ont vécu.
Parce qu'il faut se faire accepter, il faut que vous deveniez Aveyronnais aussi.
Alors moi je le suis par mon grand-père paternel, donc ça c'est important et ça joue beaucoup pour les Aveyronnais. Et bien sûr faire en sorte que chaque étudiant qui reparte ensuite dans sa propre région emporte un petit morceau de l'Aveyron dans son cœur.
La joie, l'énergie, l'enthousiasme sont au cœur de celles et de ceux que nous rencontrons ce jour-là. Pour Jean-Claude, Didier et Eric, il ne s'agit pas de verdir en surface ou de se raccrocher à l'air du temps. Bien avant que l'on ne parle de conversion écologique, elle était à l'œuvre dans leur vie.
Je suis intéressé par les aspects écologiques, donc, et j'ai milité de longues années dans l'économie solidaire et c'est un peu pour ça, parce que je crois que ma foi, elle est construite à partir de tout ce que je suis. Donc je suis un être qui est dans la nature, je m'émerveille de la nature et je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver et que surtout l'aspect qui me sensibilise plus aujourd'hui, c'est qu'il y a des inégalités très fortes et que la pauvreté d'un certain nombre de personnes est tout à fait incompatible avec la préservation d'un équilibre global satisfaisant. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai découvert avec bonheur l'encyclique Laudato si, que je l'achète pour mes enfants et c'est quelque chose que je m'efforce de faire connaître, de partager. Et bien, c'est la foi aussi en l'homme, c'est la vie et je trouve que Laudato si est un bon moyen de partager avec d'autres cette vie.
Ça passe par des actes.
Oui. Tout à fait.
Donc, dans votre quotidien, tout simplement, est-ce que vous posez ces actes ?
Ah ben oui. Et
lesquels, par exemple ?
Eh ben, par exemple, quand on a changé de voiture, on a pris une hybride. quand on a refait une maison, eh bien, on a refait une maison avec beaucoup d'aspects qu'on dirait verts aujourd'hui, c'est-à-dire du chanvre, une très bonne isolation. Et je viens d'installer cette année, j'avais installé des panneaux solaires et je vais en installer encore d'autres cette année parce que effectivement, il faut contribuer à l'équilibre de la planète.
Personnellement, ma foi, elle est forcément intime, mais elle se vit dans un environnement et dans un écosystème global. Et donc, l'aspect écologique, au sens partie d'un tout, il est fondamental. Et on peut pas aujourd'hui, dans le monde actuel, être isolé, ne pas prendre en compte les difficultés liées à l'environnement. La crise de Covid qu'on est en train de vivre montre un peu le met en avant l'hubris de l'humanité et le fait que l'homme va trop loin, l'homme se croit tout puissant. Il faut vraiment revenir à sa place et revenir en tant qu'élément humble dans un monde qu'il faut préserver et qu'il faut protéger.
C'est vrai que la lettre encyclique du pape est arrivée, à point nommé. Nous, on est engagés depuis 10 ans, 15 ans dans des actions écologiques. Et là, cette lettre, elle a permis de recentrer sur, je dirais, la charité. Alors évidemment, il y a les aspects environnementaux, le climat, etc. Mais cet accent mis sur le pauvre, sur la pauvreté, sur lequel on doit continuer de travailler. Et moi, ça m'a révélé quelque chose, alors qu'on fait de la gestion de déchets, etc., tout un tas de choses. Mais là, cet axe, ça m'a amené à réfléchir, à aller plus loin. On doit aller plus loin.
Donc c'est une dimension autre, enfin une dimension différente, mais transcendantale aussi.
Oui, transcendantale, tout à fait. C'est vrai que nous, on n'associait pas nécessairement dans nos actions le fait que l'on était chrétien. Et puis en fait, on se rend compte que toute notre prière, la parole de Dieu qui est présente dans notre vie, eh ben, ça nous nourrit aussi. Et si on a réussi à avancer, tout ça, c'est lié, quoi. Comme disait Eric, tout est lié.
Il y a deux manières de faire un compost. Le plus simple, c'est quand on a sa boîte qui est posée au sol. Le sol étant fait de terre, on ne pose pas un composteur sur du béton. Ça s'est vu, hein. Je connais des gens qui ont bétonné avant de se faire livrer le composteur, que ça soit bien propre. Ça ne marche pas, puisque les vers de terre ils viennent de la terre, ils ne viennent pas du béton. Donc, il faut bien que le composteur soit en contact avec un sol. La première méthode, c'est ce que je fais à 80% moins, c'est je mets tout dedans.
Rencontres, témoignages, ateliers se succèdent au cours de cette journée organisée par la toute nouvelle commission diocésaine pour l'écologie, nommée par Mgr Legal le 3 mars 2020. Une commission composée d'Alexis Ferté, d'Edouard et de Maya Durier et qui répond à l'appel de toute l'Église. Maya Durier.
Donc cette commission, elle a été créée par Mgr Legal, mais elle répond à l'appel de toute l'Église de France puisque les évêques se sont rassemblés à Lourdes en novembre 2019 autour des questions d'écologie intégrale. Et donc à la suite du pape, les évêques de France demandent à ce qu'on prenne à bras-le-corps ces questions d'écologie intégrale. Et donc en réponse, dans le diocèse de Toulouse, Mgr Legal a constitué cette commission. Donc on voit que les questions d'écologie intégrale sont de plus en plus importantes pour toute la société. C'est important aussi qu'il y ait une parole chrétienne sur ces questions, notamment pour apporter de l'espérance, là où parfois on voit un peu de désespoir. Et puis parce que l'Église a un message très ancien, que déjà Saint François d'Assise portait et qui est un message ancien et à la fois original qui permet d'apporter des réponses aujourd'hui. Donc voilà pour les réalités. Quelles attentes je crois que qu'on a un peu tardé à se positionner comme Église. Dans la société civile, il y a eu déjà beaucoup d'initiatives, notamment le mouvement des Colibris avec Pierre Rabhi. Enfin, donc ça, on s'est déjà emparé de la question dans la société civile. Et pourtant, dans la Laudato si, on voit qu'on, dans l'écologie, on vient apporter cette question de l'écologie humaine. On prend la personne humaine dans toutes les dimensions de sa vie, de la naissance jusqu'à la mort. Peut-être la question des plus pauvres aussi est particulièrement mise en exergue par l'Église et par la pensée sociale de l'Église. Donc tout ça est rassemblé dans la Laudato si. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une attente en tout cas particulière pour l'Église de se positionner là-dessus.
Et peut-être également une prise de conscience des catholiques ou de l'ensemble des chrétiens, qui était peut-être alors plus tardive, je ne sais pas, comme vous le laissiez entendre, mais qui maintenant s'empare de cette question parce qu'il y a urgence.
Oui, alors en effet, il y a urgence. On l'a un peu longtemps laissé à des activistes parce qu'on avait l'impression que c'était... souvent, quand on dit écologie, on pense à un parti politique, on pense à presque un hobby, une activité en plus. Alors qu'en fait, non, quand on est chrétien, ça le pape François le dit très bien, quand on est chrétien, on est écolo, c'est vraiment dans notre ADN. Et justement, les chrétiens ont un message juste à apporter. Voilà, le thème de cette journée, c'est miser sur un autre style de vie. En tant que chrétien, on a aussi une cohérence de vie à trouver, qui va jusque dans les plus petites choses, jusque dans notre style de vie.
Donc c'est pas du militantisme, mais ça se rapproche plutôt, si je vous écoute bien, si je vous entends bien, à une mission, une vocation.
Oui, une mission, une vocation, et à laquelle chaque chrétien est appelé. Alors bien sûr, on n'est pas tous appelés à s'engager dans la commission du diocèse, mais on est tous appelés à en rayonner. Le pape François dit que c'est la conséquence, notre engagement pour l'écologie, un jaillissement de notre rencontre avec le Christ. Donc c'est une des choses qui doit... le fait qu'on s'intéresse aux questions d'écologie et qu'on soit attentif aux plus petits dans les questions d'écologie, c'est une conséquence normale du fait qu'on soit chrétien. Donc on est tous appelés à ça.
Et pour le père Cyprien Comte, les questions ayant trait à l'écologie relèvent d'une responsabilité pastorale.
Bien sûr, même si je dois dire que mon ministère se passe surtout dans les salles de cours et que donc ma manière de répondre aux défis, c'est d'essayer de travailler sur la Bible et l'écologie. Et donc c'est aussi ce qu'on va faire tout à l'heure.
Ces journées de la création sont mises, je crois que c'est sous le signe du jubilé de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire un jubilé pour la Terre ?
Le jubilé, c'est une institution très ancienne dans la Bible. On permet à la Terre périodiquement de se reposer et on rend la liberté à ceux qui étaient captifs. Et du coup, c'est très intéressant de voir que cette notion biblique, en fait, est devenue un terme très employé dans l'Église pour justement témoigner de la miséricorde de Dieu. Et du coup, un jubilé pour la Terre, un jubilé pour la création, c'est vraiment une belle occasion de se dire il faut aussi que nous respections la Terre. Ça n'est pas un être humain, mais elle a aussi besoin de notre respect. Et je crois que nous avons à apprendre cela.
La semaine dernière, le journal La Croix titrait « Catho ou non, l'écologie peut-elle rassembler ?» Une question posée ce jour-là à Maya Durier.
Oui, en effet. Il faut faire quand même attention à ce que l'écologie ne devienne pas une idéologie, un but en soi, mais que ce soit bien un chemin qui nous mène vers l'autre. Donc, lutter contre l'indifférence, du consumérisme qui nous tourne vers nous, vers notre bien-être pour s'ouvrir à la communauté. Donc, dans l'écologie, on parle de retisser le lien social. Donc ça, c'est de l'écologie. Quand on prend conscience de toutes ces choses-là aussi, on se rend compte qu'on fait beaucoup de mal à la planète et donc aux plus petits qui habitent à l'autre bout du monde à cause de la montée des eaux, à cause de la manière dont on consomme. Donc il faut vraiment que ce soit un lieu de rassemblement, non pas pour une idéologie et pour l'écologie en soi, mais pour nous ouvrir aux autres, pour retisser le lien social et pour retrouver notre juste place dans la création par rapport aux autres et par rapport au Créateur.
Chantons l'hymne trois fois sainte à la bienheureuse Trinité.
Au service des paroisses et des groupes du diocèse, la commission cherche à sensibiliser à l'urgence d'un changement de vie pour un rapport plus juste, plus chaste vis-à-vis de nos frères et de notre maison commune, la Terre. Elle est également présente pour accompagner des fidèles qui veulent se mettre en chemin de manière personnelle ou en communauté. Et d'ailleurs, le lendemain, dimanche 6 septembre, plusieurs paroisses, dont celle de Saint-Exupère, organisaient une journée ou une célébration de la création, comme nous le dit le père Philippe Parent, tout nouvel administrateur de la paroisse.
Alors tout à fait, donc moi j'arrive sur la paroisse, je suis là depuis 3 jours, donc ça a été préparé avant que j'arrive, et je récupère avec joie ce qui a été organisé. Donc nous avons sur la paroisse une petite équipe qui se consacre à ce sujet, qui a réussi à avoir pour la paroisse le label d'église verte. Et donc c'est eux qui ont préparé un peu cette célébration. Il s'agit d'une messe à l'intention de la sauvegarde de la création. Voilà, donc c'est... On ne célèbre pas la création, on célèbre Dieu, le Seigneur, qui est le Créateur, qui nous a donné ce don de la création. Et donc, les dons de Dieu, on se doit de les respecter, de les garder. Et la création est un des deux, le premier don de Dieu, le premier qu'il nous a donné. Et donc, on va prier à cette intention.
Donc, la paroisse est déjà obtenue, vous êtes engagé dans l'église verte. Alors, je sais qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs des barreaux à l'échelle qu'il faut grimper. Ils se sont engagés, puis vous-même, je pense, toute l'église, la paroisse, l'église, les paroissiens, dans cette conversion écologique. Conversion écologique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire prendre conscience du monde qui nous entoure. Voilà, et ne pas penser qu'à soi, et que tous les actes que nous posons ont une conséquence sur la création.
Ces actes que vous allez poser avec la paroisse, c'est une façon aussi peut-être, ou certainement je pense, de s'ouvrir vers l'extérieur, de sortir de l'église, d'aller sur le parvis.
Effectivement, y a un spirituel qui disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Donc si le Seigneur me donne de me convertir sur un sujet comme celui-ci, eh bien ça a des conséquences dans tout le monde qui nous entoure. Et ce n'est pas nous qui allons par nos propres forces tirer les autres ou quoi que ce soit. C'est voilà, toute âme qui s'élève élève le monde, touche donc chacun qui se convertit, eh bien, entraîne tout le monde avec lui, quoi.
La commission souhaite avant tout témoigner de la joie véritable qu'il y a à adopter un mode de vie plus sobre, dans lequel Dieu seul comble par sa providence. Le secret des chrétiens écolos, Maya Durier.
Donc il y a le terme de sobriété heureuse qu'on reprend à Pierre Rabhi, qu'on aime beaucoup. Est-ce que c'est être chrétien écolo que de faire attention à la manière dont on consomme, à la manière dont on a des... Enfin, même finalement nos loisirs aussi quelque part parfois ne sont pas vraiment ajustés. Voilà, quel est mon rapport au temps? Et donc aux autres, est-ce que je laisse de la place aux autres ou est-ce que je prends toute la place? Donc dans les petites choses, c'est faire attention à la manière dont je consomme, faire attention à la manière dont je voyage, faire attention aux liens que je tisse avec mes voisins, avec ma famille. Voilà. Mais donc en fait, dans tout ça, souvent on nous dit oui, mais les chrétiens écolos, vous reprenez à votre compte des choses que l'Église prône depuis toujours, et c'est justement parce que c'est pas quelque chose de nouveau. L'Église a toujours appelé à faire attention, par exemple dans les paroisses, à ce qu'on prenne soin de tout le monde. Voilà, donc en tout cas, ce qu'aujourd'hui les chrétiens écolos, comme vous dites, proposent, c'est un mode de vie vers lequel on va tous aller petit à petit, cette sobriété heureuse. Et alors même avec mon mari, on y trouve peut-être une réponse à la question de la pauvreté évangélique auquel le Christ nous appelle, donc « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Voilà le jeune homme riche à qui le Christ invite à tout vendre pour le suivre. On s'est souvent posé la question de comment est-ce que nous on peut le vivre comme laïc, parce qu'on est appelé aussi à le vivre comme laïc. Et dans la sobriété heureuse, on arrive à se défaire de certains besoins qui nous sont peut-être imposés par le flux, la pression des pères, le flux, la course de la société, quoi. Et nous, ça nous aide aussi à trouver cette cohérence et à répondre au désir profond du Christ et à son appel de l'Évangile.
C'est une exigence, une belle exigence. Mais l'Évangile est exigeant, vous allez me dire.
L'Évangile est exigeant, mais voilà, c'est une exigence qui rend heureux. Alors, parfois, on nous dit, mais ce que vous vivez, c'est trop radical. Alors, qu'est-ce qu'on vit? On ne prend plus l'avion, On consomme en nourriture, on prend que du local, de saison, on essaye de faire du zéro déchet, bah, même si on n'est pas parfait, mais en tout cas, toutes ces choses-là, parfois on nous dit c'est trop exigeant. Et en fait, ça nous rend vraiment heureux, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de choses, et tout ce dont on n'a pas besoin de matériel, et ben, c'est de la place pour davantage de relations, pour davantage de temps passé en cuisine, en couple, et ça c'est super, pour nos enfants, enfin... C'est juste une autre manière de vivre qui nous rend vraiment heureux.
Et reprenant les mots de Maya, j'ajouterai « La commission n'aspire qu'à être renforcée par toutes les bonnes volontés qui souhaitent s'engager pour la sauvegarde de la création, don gratuit de Dieu qui nous aime ».